Bonjour à toutes et à tous, l'équipe est en place pour la troisième émission de Première Classe. C'est parti pour une nouvelle heure de culture, d'actu, de musique, avec Sylvain qui nous parlera toujours de littérature.
Salut, salut!
Tu vas parler de quoi?
Ah, vous verrez.
T'aimes bien faire des secrets, toi.
C'est ça.
Notre nouvelle adhérente, Alice, qui vient présenter sa deuxième chronique.
Bonjour, alors ça sera encore une chronique décalée sur la bouffe, la tapenade.
Oh, j'adore.
Ainsi qu'une chronique cinéma sur un vieux film que j'ai déterré pour vous.
Ah, super, une nouvelle chronique. Génial. On accueille également Sébastien.
Et salut.
Salut Sébastien, notre nouveau critique gastronomie qui testera pour nous différents restaurants et nous fera le compte-rendu. Et toujours Panda, en technique, mais aussi avec nous pour parler musique.
Hey, salut tout le monde.
Mais tout d'abord, merci à ceux qui nous suivent d'émission en émission. On vous rappelle que vous pouvez vous aussi nous rejoindre, comme Seb et Alice, pour faire évoluer la programmation ensemble, n'est-ce pas?
Ouais, venez, ouais. Ah ouais, 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 régale, venez,
oh, c'est oh, stop, 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 vous êtes trop dissipés. Allez, on se recentre et on commence avant toute chose par revenir sur une sortie qu'on a testée pour vous. Sylvain est allé au concert de Sum 41 et nous raconte...
Bonjour à tous, le 25 janvier 2017, au Dock des Suds de Marseille, je suis allé voir le concert de Sum 41. Sum 41, oui, ce groupe que j'écoutais quand j'étais ado, début des années 2000. À l'époque, je me souviens, je portais des baguilles, le caleçon qui dépassait, la chaîne du porte-monnaie le long des poches.
On l'a tous fait.
Les écouteurs toute la journée dans les oreilles, pareil, vous
j'ai
aussi.
J'ai bien connu, oui.
Ah là là. Et bien Sum 41, à cette époque, c'était un de mes groupes de punk rock préférés. Alors imaginez le bonheur quand je les ai vus sur scène pour la première fois il y a 2 semaines. Du pur plaisir, un retour de 17 ans en arrière. Alors je vous l'avoue, j'ai kiffé grave. Alors... Je vais vous parler maintenant du concert, mais je ne vous parlerai pas de la première partie avec laquelle je n'ai pas accroché. Donc le groupe arrive sur scène, ovationné par toute la salle bien entendu, et commence par une intro rendant hommage à tous les groupes de hard rock et de metal qui les ont influencés. Et là je me suis dit, le son c'est pas génial. Et c'est très embêtant, surtout quand vous allez voir un concert de rock avec des guitares saturées. Les balances semblaient être faites maladroitement... les guitares couvraient un peu trop la voix de Derrick. Bref, c'était la déception du concert. Alors, je ne sais pas si ce sont les techniciens ou l'acoustique de la salle. En tout cas, c'était un peu dérangeant.
Un peu des deux, je pense.
Dommage.
Ouais, dommage. En revanche, sur les vidéos, alors c'est ça qui est assez rigolo, c'est que le son passe mieux qu'en vrai. Alors, mystère, peut-être que mes oreilles ont vieilli prématurément. J'en sais rien.
Possible aussi.
En revanche, le groupe était hyper dynamique. En même temps, pour un groupe de rock, ils ont intérêt. Mais ils ont mis le feu à la salle, jeu de confetti à gogo, le chanteur qui vient faire un tour dans le public. Pour résumer, ils nous ont offert un show, un vrai. C'était assez sympa d'avoir eu droit à 2 morceaux qui étaient plutôt calmes, avec le public assis, durant lesquels Derrick chantait du fond de la salle parmi les fans. Donc ça, c'était assez sympa, devant les groupies en folie.
Toujours.
Alors le choix de la setlist, monstrueux. Nous avons eu droit aux 7 albums, les classiques Still Waiting, Hellsong, In Too Deep, Fat Lip, Over My Head, tout était présent. Le groupe arriva à bien faire varier entre morceaux énervés, ballades, bonne gestion. Nous avons également eu droit à un solo de batterie et une reprise de We Will Rock You de Queen. Il y a eu 2 rappels, le dernier étant leur unique chanson de heavy metal, Pain for Pleasure. Morceau sur lequel le groupe a l'habitude de finir ses concerts. Alors je sais pas s'ils font ça à chaque fois, mais ils sont venus déguisés avec des perruques et vêtements à la mode de ces groupes de heavy des années 70. Que du bonheur. En bref, 26 chansons pour nous secouer. Je voudrais ajouter également que le lead guitariste Dave Bach portait tout le long du concert un maillot de l'OM. Donc ça c'était un joli clin d'œil à la ville. C'était assez sympathique. Et je terminerai cette chronique sur le public, un public déjanté et surmotivé. Du balcon, on pouvait observer un bon nombre de circle pits de pogo en tout genre. Et ce qui m'a éclaté, c'était la tenue de la majorité des fans. Un véritable retour au début des années 2000. Des baguilles, bracelets à pic, la totale. Voilà, donc je vous propose de vous quitter avec cette chanson du groupe In Too Deep.
Far, 'cause I'm in too deep and I'm trying to keep.
time I'm with you, I lose my mind because I'm bending over backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up a fight in my head. Instead of going under, cause I'm in too deep and I'm trying to keep up a fight in my head. Instead of going under, instead of going under.
Et on remercie Sylvain pour ce petit moment nostalgie. C'est vrai que nous-mêmes qui avons vu avec Panda Sum 41 au Sziget Festival, donc qui est le plus gros festival d'Europe en Hongrie, l'été dernier, on n'a pas non plus été déçus, mais on avait un bon son, par chance. Ah. Comme c'est un très gros festival, on avait la chance d'avoir ce bon son. Ouais, ouais. Et j'ai aussi le souvenir des groupies qui soulèvent les t-shirts. Comme à nos 15 ans, quoi. Voilà. Oui. C'était vraiment
au
pas
passage,
mal.
Au passage, on les a vus cet été et je peux t'assurer qu'ils avaient un super son. Donc, ouais, je ça, pense, voilà, ça vient pas du groupe.
Ça vient de la salle.
Ouais. Ouais,
la salle,
salle
ou les techniciens, parfois, qui bossent dessus.
Ouais, hein. Je me suis posé la question. Vraiment, je me suis dit, c'est bizarre.
On te rassure, non, il y avait un bon son. En plus, c'était un peu l'après-midi, donc on a vraiment vécu un moment californien, on va dire.
Et toi aussi, tu as montré tes seins comme ça?
Non. Non, ça ira, je buvais ma petite bière, tranquille. Alors, donc, tant qu'on est dans les sorties, Seb a fait donc une sortie au restaurant dont il va nous parler tout de suite.
Et bonjour à toutes et à tous, c'est Seb pour la rubrique culinaire. Alors, Radio Gecko vous présente un petit restaurant en spécialité provençale cette semaine, situé au cœur des Alpilles. Le restaurant se trouve au centre du village d'Orgon, sur la place de la Poste. Un petit kiosque en fer avec les menus. Un escalier qui descend dans une cour intérieure, et là, dépaysement total. On se retrouve dans un moulin du XVIIIe siècle, bien rénové, des nappes brodées, une belle argenterie, des couverts somptueux, belle décoration. Le côté jardin vous accueille du coup du mardi au dimanche midi, avec une ambiance chaleureuse et conviviale. Le chef et son apprenti vous feront découvrir une cuisine traditionnelle provençale, faites uniquement avec des produits frais et locaux.
Ça, c'est bien.
Mmh. Ouais. Ah oui, c'est préférable. Ouais.
C'est la base de la bonne
Sinon, bouffe. Je ne me déplace pas. Les desserts sont faits à la minute, ce qui est un gage de qualité du restaurant. En général, ça évite les petites surprises du genre un fondant au chocolat bien dégueulasse, réchauffé au micro-ondes.
On a tous connu
voilà.
Ça. Ouais.
C'est affreux. L'ambiance est sympa, le petit sourire et les pics d'humour de la patronne, franchement, pourront pas vous laisser de marbre. Il est super ce resto. Bonne ambiance garantie, quoi. En amoureux, entre amis ou en famille, moi-même et la rédaction de Radio Géco vous assurons une belle soirée gustative. Bon appétit à tous et à dans 15 jours pour la prochaine rubrique culinaire.
Donc tu le conseilles pour tous, plutôt en amoureux ?
Pour tout le monde, tout public.
Tout public,
franchement,
ok.
Franchement, ouais. Ça fait 10 ans que je suis client chez eux et je n'ai jamais été déçu une seule fois.
Alors on ira faire un tour voilà. Parce que nous aussi on est bien gourmands.
Après les menus, c'est vrai que ça va de 27 à 44 euros. Mm-hmm. Tous les alcools sont bons, des bons conseils en vin. Et non, tout
à consommer avec modération.
Comme on dit, il vaut mieux manger des produits frais et de qualité plutôt que payer 20 euros. C'est plus cher 20 euros pour de la merde que...
Ah, ça, c'est sûr.
Que 30 ou 40 pour un bon repas.
Mais c'est moi, sûr. Je vais demander à la direction de Géco qui nous invite à ce resto parce que ça a l'air super bon.
Ouais. Ah, ça a l'air.
On va faire une grève là.
On y pensera, ouais. On y pensera. J'espère, Seb, que tu as pris autant de plaisir à faire ta chronique que nous en t'écoutant.
Bah oui.
Et j'espère qu'on en prendra autant en mangeant au restaurant.
C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous.
On se retrouve juste après une petite pause pour la suite du repas avec Alice. C'était Last Night des Strokes. Alice, notre psy en herbe folle, va nous présenter sa deuxième chronique, Âme sensible, accrochez-vous.
Alors, la dernière fois, on était parti en Angleterre avec ses petits déjeuners bourratifs. Et maintenant, c'est le retour au pays pour ses apéros récréatifs avec un ingrédient absolument nécessaire, l'olive. Mais encore mieux, des olives transformées par vos petites mains et votre ingénuité en tapenade.
Oui, wow, c'est bon ça.
C'est bon, ça.
Rien de tel que de la faire maison. La tapenade industrielle, c'est trop cher et c'est trop petit. Pour le prix d'un mini pot de grande surface qui contient à peine 3 cuillerées, vous pouvez remplir par vous-même un énorme bocal. Il suffit d'acheter des olives dénoyautées, de l'ail, des anchois et des câpres. Et bien sûr, de l'huile d'olive.
Évidemment.
Mais tout provençaux qui se respecte en possède dans sa cuisine. Prenez donc
fort les cigales.
Prenez donc vos olives, votre ail, vos câpres et vos anchois. Je ne dis pas les quantités exactes, car votre tapenade maison doit être singulière, propre à votre esprit.
Non, pas des anchois, c'est pour les niçois, bon
personnellement,
sang.
Personnellement,
c'est
non,
bon, les
arrête
anchois.
Avec tes olivades. Personnellement, quand j'en fais une de tapenade, elle n'a jamais vraiment le même goût, car
bien sûr,
je pense que je suis quelqu'un de fantastique.
D'unique. Tu vois la différence avec l'industriel, excuse-moi de te couper, mais l'industriel...
Surtout qu'elle est mal organisée du coup, parce qu'elle n'a pas noté ses recettes.
C'est ça, il y a un peu de ça, ouais, c'est pas faux. Bon, mais au moins, il n'y a peut-être pas trop d'anchois comme justement dans l'industriel.
Bah, si
par contre,
veux, pas trop
je vais la défendre, tu mets les anchois dans la tapenade.
Oui, mais t'en mets un peu, mais justement dans toutes les recettes qu'on retrouve, que ce soit dans les restaurants ou dans les industriels également, ça a le goût de l'anchoyade, pas de la tapenade.
Mais c'est normal, l'anchois est beaucoup moins cher que l'olive
verte. Je préfère qu'elle ait le goût de l'olivade que de l'anchoyade.
Mais t'as qu'à la faire toi-même. Et tu
on en reparlera, on fera un débat sur ce qui est meilleur ou pas.
La tapenade, c'était un truc de pauvre au début et ça a été passé en produit de luxe.
Tout à fait, c'est clair. On en reparlera, je t'invite à poursuivre.
Ils m'ont donné la dalle, je suis désolée.
Je t'invite à en parler dans un débat NC4. Allons-y. Alors,
vous mixez donc tous ces ingrédients ensemble. Vous ajoutez votre huile d'olive, des herbes de Provence, du poivre, quelques gouttes de citron si vous voulez, jusqu'à ce que vous soyez content de la consistance et du goût. Mettez le tout dans un grand récipient, parce qu'il y en aura beaucoup, ou dans quelques petits bocaux en verre décorés si vous voulez la jouer prétentieux. Gardez ça quelques temps au frais, en compagnie de vos amis les bières, et surtout de l'eau fraîche, pour le pastis.
Le bon pastaga.
Avec un glaçon. Trop fort, le cigale.
Une fois en soirée, sortez votre pot à l'aspect si peu ragoûtant, et enduisez généreusement de tapenade quelques assiettes agrémentées de pain, pour mieux appâter les collègues. Par rapport aux chips graisseuses et aux cacahuètes frelatées, votre tapenade est un succès assuré.
Sébastien.
Les camarades se sentiront flattés que vous ayez utilisé vos petites mains pour leur tronche et leur estomac, davantage que si vous avez payé cher comme tout une tapenade qui n'est pas de vous.
On est bien d'accord. Sébastien.
Si vous en faites suffisamment en quantité pour la conserver, il suffit juste de laisser un petit centimètre d'huile d'olive dessus. Vous pouvez la garder presque une semaine.
Merci de toutes ces précisions. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci Alice. Je pense qu'on en reparlera. Hein. On se retrouve juste après All Right de Supergrass pour l'agenda des sorties. Pour les sorties du week-end, ce vendredi 10 février, rendez-vous au Perroquet Bleu pour la 3e édition des soirées Prohibition de ce lieu mythique de Marseille. Musique des années 20-30 pour accompagner vos tapas en début de soirée, bar clandestin au sous-sol et ambiance festive avec panda au platine toute la soirée et un peu plusieurs styles de musique différents sur la fin, ça dérive, vous verrez. Beaucoup de monde attendu pour cette 3e édition, vous pouvez réserver votre table en contactant Reda du Perroquet Bleu. samedi 11 février au Molotov à Marseille, soirée reggae raga avec Radio Fly Foot Selecta, web radio justement présente sur Radio Nomi. Et comme j'ai rien trouvé d'autre cette semaine, vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir au Perroquet Bleu vendredi.
Ça va être très bien.
Ça va être très très bien, oui. Il y a des chances. Tout de suite, rendez-vous avec Panda et sa chronique musicale.
Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la chronique musicale, jamais populiste mais jamais élitiste non plus. Aujourd'hui on va parler d'un artiste qui sûrement vous parlera, Goran Brilovic. Goran Brilovic est un musicien yougoslave né à Sarajevo, il a maintenant 66 ans, il fait de la musique depuis 1969. Au début il était plutôt, on va dire, comme n'importe quel yougoslave, vers les études, économie, droit, il se cherchait, il avait à côté de ça son petit groupe. Il a commencé par des études de violon, puis s'est très vite mis à la guitare. Son premier groupe, Bijelo Dugme.
J'adore quand tu parles dans des langues étrangères.
Alors, tout ça. Comme le turc, il y a 15 jours, le yougo, j'avoue que non, je ne connais pas. Donc, mais bon, bref, c'est, avec ce groupe, c'est une véritable roll star. En 15 ans, ils ont sorti 13 albums. Et
quand
ça
même.
A été, ouais, ouais, à chaque fois, des gros hits. 13 albums en 15 ans, c'est vraiment du Stachanovism.
Presque un par an, quoi.
Ah, c'est fou. Pire que Maiden, quoi.
Trop de monde.
Ouais, c'est ça. Après, en 1970, il y a eu vraiment un tournant, c'est la rencontre avec un petit cinéaste amateur qui était bassiste d'un groupe de punk. Il s'appelait Emir Kusturica, figurez-vous. Oui, c'était un tout petit, il était tout jeune et leur entente est plus que cordiale. Ils bossent ensemble et sur de la musique et sur des films. Notamment.
J'adore.
Ah, mais Kusturica, c'est complètement barré. On en parlera peut-être un jour, mais enfin, vraiment, si vous ne connaissez pas, allez-y, quoi. En 90, d'ailleurs, il arrête son groupe et commence à composer seul. Justement pour Le Temps des Gitans, le film de Kusturica. Dans la foulée, il fera aussi Arizona Dream et Underground, toujours de lui-même. C'est d'ailleurs lui qui écrit le morceau In the Death Car pour Iggy Pop.
Voilà, d'accord. C'est grand, quoi.
Il est très connu, même si son nom n'est pas connu de tous les publics, son travail est très connu.
On va dire, voilà, même si je te fais écouter 2-3 morceaux, tu diras « Ah ouais, d'accord, c'est ça ». D'ailleurs, on s'écouterait un petit morceau derrière. Qui n'est pas de Goran Brilovic purement, il l'a écrit justement avec Emir Kusturica pour le film « Chat noir, chat blanc ». Pareil, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film complètement déjanté sur la vie des gitans en Bulgarie. C'est un film de malade mental. Non, mais vraiment, c'est à se pisser dessus de rire.
On peut dire qu'il est incontournable.
Pour moi, il y a deux cinéastes qui vraiment ont leur univers. Tu as Tim Burton d'un côté, tu sais que tu vas voir un Tim Burton. Et de l'autre côté, tu as Emir Kusturica, tu sais que tu vas voir un Emir Kusturica. Voilà, c'est énorme. Ensuite, il se concentre sur énormément de bandes originales de films. Notamment, il fait, ça va nous parler ici, La Reine Margot. Un film français des années 90.
Oui, exact. Bon.
Qui était avec Isabelle Adjani, de mémoire. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas pris de notes. C'est comme ça, aujourd'hui.
On vérifiera.
Non, mais Goran Brilovic, c'est beaucoup d'impro, c'est beaucoup de folie. J'ai décidé de faire la même chose aujourd'hui. C'est comme ça.
c'est ça qui est bon.
Dans les années 2000, ensuite, il reforme son groupe. Donc, Bijelo Dugme.
Okay. À tes souhaits. Tu ne l'as pas pris non plus en seconde langue.
Non, mais
la prochaine fois, préviens-moi avant, on prend un interprète.
Ouais, pas de souci. Ils refont 3 concerts dans 3 capitales de l'Est Yougoslavie. Ce sont d'énormes cartons. Les 3 dates se déroulent dans des stades. Donc, c'est généralement entre 40 et 80 000 personnes. À partir de là, en 2006, il reprend la route pour faire des scènes avec son orchestre qui s'appelle Wedding and Funeral Orchestra, qui en gros pourrait se traduire par orchestre des mariages et de l'enterrement. Musicalement, comment vous décrire ça? C'est un mélange en fait de rock, de punk, de musique des Balkans, de musique tzigane, slave, ce que vous voulez. C'est complètement barré. 9 fois sur 10, les paroles ne veulent strictement rien dire. Ou alors, c'est que ce sont des reprises de morceaux, traditionnels. Sur scène, c'est fabuleux. Certains concerts, il les fait avec 180 musiciens. Voilà.
Ça vous fait vraiment taper du pied.
180 musiciens sur salle.
Et puisqu'on parlait justement du Ziget Festival par rapport à ce festival, on a vu aussi Goran Bregovic sur ce festival et il te fait vraiment taper du pied. Même si t'es au bout de ta vie fatigué.
Il aimait où les 180 musiciens?
Sur une grosse scène, dans un opéra, comment tu fais?
Oui, tu aimes bien.
Voilà, exactement. Alors cette année, pour revenir sur justement le Ziget, on l'a encore revu cette année. Personnellement, ça fait 7 ou 8 fois que je le vois en concert. À chaque fois, c'est la folie. J'avouerai que cette année, on sentait un peu de fatigue quand même. Le garçon commence à vieillir, comme je vous ai dit. Il a 66 ans maintenant. Si là dans l'année vous avez la possibilité de le voir en concert, ça va être le moment. Je pense que après,
comme Renaud.
c'est vraiment, ça va être le moment de le voir en concert parce que on sent que c'est la fin. D'ailleurs, cet été, il n'était que avec une dizaine de musiciens, alors que même jusqu'à l'an dernier, il y avait une trentaine encore avec lui. Beaucoup de cuivre, beaucoup de choristes. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est vraiment génial. C'est live, c'est une heure et demie de pur bonheur. Même quand t'es crevé, tu t'assois dans l'herbe, quand t'as de la chance de le voir en extérieur, et c'est là que c'est le meilleur, vraiment. Quand tu le vois, t'es crevé, tu t'assois dans l'herbe, ça nous l'a fait plusieurs fois, hein, c'est pour ça. Puis t'as décidé de pas bouger, tu bois ta bière tranquille, consommer avec modération, comme d'habitude.
Et d'un coup, tu tapes du pied.
Et tu tapes de pied, puis tu bouges ta jambe. Puis d'un coup, tu te retrouves debout, tu sais même pas comment. Tu t'es levé, tu as fait Jésus, vas-y.
Saute de partout.
Lève tes bras et marche, je sais pas. Tes courbatures, elles ont disparu. Au bout de 20 minutes, tu sautes de partout, tu fais le kangourou. T'as plus de pieds, t'as plus de bras, t'as plus de chocolat, t'as plus rien. Tu continues. c'est la folie. Bref, Goran Bregovic, beaucoup connaissent, même au moins sur ses plus gros succès. Là, on va écouter Buba Mara. Buba Mara veut dire papillon, donc en yougoslave. C'est justement un morceau traditionnel yougoslave qui est l'histoire du petit papillon qui commence en chrysalide et qui ensuite vole de ses propres ailes. C'est un morceau qui donc a été repris avec Emir Kusturica. C'est vraiment, on va dire, la plaque tournante de leur collaboration. Allez, je vous laisse aller avec ce morceau.
Ok.
So... Buba Mara sose nicheuel Deboa, deboa, mangaboa O akeme kamera. Buba Mara sose acela, deva deva la charle, Buba Mara koha počine, eiro malen ašunen, eča oren kugle zurale, Buba Mara čajori, baro grga vojsi ođili. Ciknije, šužije, ajde moli vojro meca. Džinđi, džinđi, buba maro, ciknije, šužije, ajde moli vojro meca. Čela, ode orifuzu i čudela, dela, dela sa čarle, buba malu vojte arese, pejro male našunen, eča oren kugle šukaren, život osi igi špil, tradela rom aironim.
żyje, aj de moli wolomeca. Dzięki rindzi buba maro cytlije, co żyje, aj de moli wolomeca.
Et voilà, c'est gagné. Tout le monde danse sur le plateau et saute de partout. C'est le bordel.
C'est ça.
Merci Panda pour ces musiques toujours aussi improbables les unes que les autres.
Oh, ça va, j'ai fait dans le Clonus cette semaine. Arrêtez.
Et maintenant, ouvrez vos cahiers. C'est l'heure de la chronique littérature du professeur Sylvain.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire.
Sylvain, stop. On enregistre là, s'il vous plaît, Sylvain. On enregistre.
Pardon. Excuse-moi, mais c'est la faute à Balou.
Faut que t'arrêtes vraiment de regarder les Disney, ça te réussit pas.
Ouais, enfin, là, ce n'est pas l'interprétation Le Livre de la Jungle de Disney que j'ai trop regardé, mais Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling que je viens de terminer. Et d'ailleurs, ma chronique porte sur ce dernier.
C'est pas la même chose.
Oh, ben ça tombe bien alors.
Alors, c'est pas la même chose, tu verras, pas tout à fait. Alors, pour vous parler de ce livre, je me suis également amusé, bien évidemment, à revoir le dessin animé et le film de Disney.
D'accord.
Parce qu'on le veuille ou non, beaucoup de gens ne connaissent Le Livre de la Jungle que par l'intermédiaire de Disney. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Étiez-vous tous au courant qu'avant d'être un dessin animé, c'était un livre ?
Oui.
Un vieux livre qui date du 19e siècle.
Oui,
alors bon,
beaucoup de Disney.
Je vous demande ça parce que je
mais
connais...
Mais on l'a pas lu en revanche, ouais, hein, voilà. Ça.
Mais voilà. Justement, je vous demande ça parce que je connais des personnes qui ne savaient pas que c'était un livre et j'allais vous poser la question justement si est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui l'a lu ?
Non.
Absolument pas.
Non.
Voilà, donc c'est ce que je disais, vous connaissez l'histoire par l'intermédiaire de Disney.
Oui.
Alors, pour ce qui est du livre, ce n'est pas un roman, mais un recueil de nouvelles et surprise... Toutes les nouvelles ne comptent pas les aventures de Mowgli, l'homme-loup.
Attends, t'es en train de me dire que Le Livre de la Jungle, c'est pas l'histoire de Mowgli ?
Exactement. Dans ce livre, il y a 7 nouvelles, dont seulement 3 se passent avec le héros que Disney a exploité.
Ah ok, même pas la moitié quoi.
C'est ça. Parce que, pour ce qui est du livre dans sa globalité, les nouvelles se lisent aisément. Et pour celles sans Mowgli, Rudyard Kipling arrive à nous passionner en faisant vivre ces animaux comme s'ils étaient des humains. J'ai d'ailleurs beaucoup moins aimé les deux dernières dont les personnages principaux sont les hommes. En revanche, j'ai littéralement adoré les histoires de la mangouste et du phoque. Un vrai régal. Mais je vais quand même insister sur l'histoire de Mowgli. Est-ce que vous avez tous vu le dessin animé ou le film de Disney ?
Bah, oui, dans notre enfance lointaine.
Voilà, c'est ça. Eh bien, accrochez-vous, car l'histoire littéraire de Mowgli connaît bien des différences avec son histoire cinématographique. En effet, Disney a pris la liberté de changer plusieurs faits pour ses adaptations. Bien entendu, la trame principale est la même. Mowgli est un petit homme recueilli par des loups qui le sauve du méchant tigre Shere Khan et il va devoir quitter la jungle du haut de sa dizaine d'années pour fuir le prédateur. Mais différemment du dessin animé de chez Disney, l'histoire ne se termine pas lorsque Mowgli retourne au sein du village humain. En effet, son immersion chez les hommes se passe très mal. Premièrement, Shere Khan cherche toujours à le tuer, malgré son départ du monde des animaux. Ensuite, les humains se rendent compte qu'il sait parler aux animaux, le prennent pour un sorcier et le virent carrément du village. Bon, ce qui fait les affaires du jeune homme, qui est heureux de retourner, de vivre parmi les siens, les loups, Balou et Bagheera. Pour ce qui est des diverses aventures qui se déroulent pendant son voyage vers le village des hommes, Il y a aussi des différences. Tout d'abord, dans le livre, elles ont eu lieu bien avant la fuite de Mowgli. Ensuite, il ne rencontre pas Baloo pendant son périple, mais dès son adoption par les loups. Baloo, attention, accrochez-vous, c'est l'ours sage, chargé d'apprendre aux petits les lois de la jungle et le langage des animaux. Alors bien entendu, il a un côté fainéant, et malgré ce côté fainéant, il n'en est pas moins un maître sévère qui n'hésite pas à corriger le jeune apprenti loup à coups de pattes ou de grosses
mais ça,
gifles.
C'est connu.
C'est connu, pas trop dans le dessin animé. Et dans le film, on va dire que... C'est vrai qu'il exploite Mowgli.
Dans le dessin animé, il a toujours eu un rôle initiatique, un petit peu, le Baloo.
Il a toujours eu un rôle initiatique.
Ouais, c'était une grosse patte.
Puisque tu l'as revu.
Ouais, grosse patte.
Oui, peut-être pas autant prononcé.
Là,
en fait,
là, c'est vraiment un maître sévère, c'est-à-dire qu'il le corrige. Il met des grosses tatanes
en
dans
gros,
la tête.
En gros, tous les côtés négatifs.
Alors que le côté sévère, c'est plus Bagheera, finalement, dans le dessin animé. Le rôle de moralisateur.
Oui, mais là, c'est vraiment Baloo qui a un rôle vraiment de maître sévère qui lui apprend. Alors, vraiment, il lui apprend les lois de la jungle. Et il lui apprend aussi surtout le langage des animaux, ce qui est très important, c'est-à-dire comment se présenter face à n'importe quel animal de la jungle. Par exemple, le langage loup, le langage des oiseaux.
Ça, j'en ai entendu parler.
Voilà. Il y a...
Ah oui, Christelle, toi, tu parles à ton chat.
Oui, mais il me répond, c'est pour ça.
Non, mais en plus, il dit que des conneries et toi, tu lui réponds.
Pour en revenir au livre, il y a deux autres différences flagrantes avec les œuvres de Disney. Il n'y a pas de roi Louis. Les singes sont appelés dans le livre les Bandarlog et c'est une tribu en fait totalement anarchique qui ne vit pas sous le joug d'un roi. Et le serpent K n'est pas méchant dans le livre. C'est le sauveur d'ailleurs de Mowgli lorsque le petit se fait capturer par les Bandarlog. En revanche, il est clairement détaillé dans le livre les capacités à hypnotiser qui que ce soit du serpent. Mowgli, ça c'est vraiment à mourir de rire. Mowgli, c'est un badass dans le livre. C'est vraiment le bad boy qui a peur de rien. À un moment, il t'attrape Shere Khan par le cou, par la peau du cou, il le menace et tout. C'est impressionnant. Voilà. Donc, pour conclure, je vous recommande ce livre. Les diverses nouvelles sont sympathiques. Et les différences avec les œuvres du grand écran sont tellement énormes qu'on redécouvre une nouvelle histoire de Mowgli et compagnie. J'espère vous avoir donné envie de lire ce recueil, de Rudyard Kipling, et à bientôt.
Ben oui. Pour moi, oui, carrément. Parce que
non, pour les petits lecteurs, les nouvelles sont beaucoup plus faciles à lire. Voilà. Ouais. C'est pour tout public.
Exactement.
Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette petite touche littéraire. Restons dans les arts avec la nouvelle chronique sur le 7e art présentée par Alice.
Alors aujourd'hui, j'ai déterré un film, un vieux film de 1967 qui s'appelle Bunny Lake is Missing, donc Bunny Lake a disparu, qui est un film d'Otto Preminger. Alors, ce film commence par une histoire a priori banale. Une femme américaine, interprétée par l'actrice Carol Linley, rejoint son frère en Angleterre. Le frère est interprété par Kerl Julia. Elle ne connaît pas le pays de l'Angleterre, donc elle est un petit peu perdue. Elle dépose le matin même de son arrivée sa fille Bunny Lake, âgée de 4 ans, dans une école. Comme elle est en retard, elle confie la surveillance de son enfant à la cuisinière en attendant que la maîtresse d'école l'amène dans sa nouvelle classe. Quelques heures plus tard, la mère retourne chercher sa fille, mais ne la trouve pas. Personne ne sait où elle est. Et bien sûr, la cuisinière a démissionné. La police est appelée, ainsi que le frère, et tous vont enquêter sur la disparition de cet enfant, que personne n'a vu, ni les spectateurs eux-mêmes, puisque l'enfant n'est apparu dans aucune scène. L'inspecteur de police, responsable de l'enquête, interprété par un grand acteur, Laurence Olivier, relève les étrangetés de cette disparition, ainsi que le comportement suspicieux de la mère et du frère, et qui mènera à cette question cruciale, Bunny Lake existe-t-elle réellement ?
Ta-ta-ta-ta.
Ce film est marquant à plusieurs égards. Du point de vue technique, il est surtout tourné sur de longs plans séquences, marque de fabrique de son réalisateur Otto Preminger. Cette technique, qui consiste à ce que la caméra suive le personnage sur de longues distances sans couper l'image, nous permet de nous identifier plus facilement au personnage, de ressentir les tourments qu'il traverse.
De marquer la réalité, oui.
Et du fait que l'on accompagne les personnages dans le moindre de leurs mouvements, on a un sentiment de perdition par rapport au lieu qu'il traverse, et l'on se surprend nous-mêmes à rechercher la petite enfant Bunny Lake dans les décors. Par ailleurs, ce film excelle dans le maniement de styles différents. On passe d'abord par le style sentimental, avec la mère éplorée qui a perdu son enfant chéri et l'arrivée du frère sauveur. Ensuite, sont tirées les ficelles du film à suspense, avec l'enquête qui se complexifie peu à peu, nous menant carrément au thriller psychologique, notamment par des questionnements psychanalytiques très fins apportés par l'inspecteur et une vieille dame qui habite au-dessus de l'école. Et enfin, à des scènes dignes d'un film d'horreur qui m'ont moi-même effrayée, même si le film date de 1976, j'ai été effrayée.
Non, vraiment, c'est souvent plus effrayant hein,
ah oui, oui,
dans les vieux films.
Il y a par exemple une scène qui se passe dans un magasin de poupées de porcelaine, vous imaginez, où l'on se croirait dans une catacombe avec tous ces visages inanimés aux yeux fixes qui luisent dans l'ombre. Vraiment effrayant. Mm-hmm.
Ça m'a fait la même chose la dernière fois que je suis allé dans une maison de retraite.
Oh. La blague du technicien.
Alors, quant à la fin, c'est l'acmé, une montée dans la folie, représentée dans une scène par la folle envolée d'une balançoire qui accentue le malaise d'un jeu d'enfant qui n'a que trop duré. C'était Bunny Lake a disparu.
Moi, j'adore ce genre.
Ça donne envie.
J'adore ce genre.
Tu as dit quelle année, tu as dit ?
Hein, 1967.
Ils n'ont pas fait un remake parce que cette histoire de l'enfant que tu ne vois pas et à un moment on revient sur cette idée qu'il existe ou pas. Ça me parle aussi. Ouais. Ça me parle d'un film.
Dans un film d'avion, il y a un film où la nana perd sa fille, machin, on ne sait pas si.
Il y en a un bon paquet. Je pense
qu'il va y avoir.
Je vous invite à chercher pour la prochaine fois à me ressortir les titres des éventuels remakes. Hein.
Ouais.
Ça sera le petit jeu entre nous. C'est vrai que ouais, ce genre de film plein de plans séquences, moi je suis vraiment adepte de ça, donc j'irai le voir. Enfin, je regarderai.
C'est le côté mystérieux moi, qui me.
Ouais. Merci beaucoup Alice pour ce vieux chef-d'œuvre déniché. On se retrouve juste après Human Fly des Crumbs pour.
La question du jour!
As I got a garbage brain that's driving me insane. I don't like the ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. I'm a demon fly, I spit it till why, I say buzz, and it's just because I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say, rock tonight, and I say, rock it right, and I say, but I don't know why. Just don't know why.
Welcome back, bienvenue à nouveau dans Première Classe avec l'équipe de GECO. On parlait de fait maison avec Alice, des produits locaux avec Seb, ce qui nous mène à cette question que beaucoup se posent. Est-ce plus cher de consommer direct producteur ou industriel ? Qu'en pensez-vous ? Tour de table, Sébastien.
Moi, je préfère faire le tour des producteurs locaux.
On parle de coût, hein ?
On parle de coût.
Mais même au niveau du coût, on s'y retrouve grandement.
Bah pareil, disons que moi aussi je préfère mettre un petit peu plus cher si c'est pour bien manger quoi. Après,
donc tu trouves que c'est plus cher?
C'est plus
parce que tu nous parlais de la tapenade, par exemple, c'est moins cher, tu nous disais.
Ah oui, bah pour le coup, c'est moins cher de la fabriquer soi pour une quantité beaucoup plus importante et en plus meilleure.
Ah. Sylvain, votre cher Sylvain. Sylvain.
Le Sylvain, il a plutôt tendance à se nourrir chez les industriels. Hein.
Vendu.
Au bûcher, hérétique.
Allons-y, ça m'intéresse.
Alors, bon, déjà, on a déjà parlé du coût ensemble. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a des produits qui sont moins chers. Alors, vous m'avez quand même démontré qu'il y en a certains qui sont beaucoup moins chers chez les locaux qu'en industriel. Je suis d'accord avec vous qu'il y a la qualité qui est vraiment présente chez les producteurs locaux, qu'on n'a pas forcément, la même qualité dans les produits industriels. Après, honnêtement, c'est faut avoir. Enfin, moi, je trouve que en question de temps, de coût et tout, c'est parfois beaucoup plus pratique.
Attention, là, on parle de coût, on parle pas encore de temps. Ouais, le débat n'est pas fini. On va revenir là-dessus tout de suite. Si éventuellement, Panda peut donner un exemple de produit moins cher.
Oui, tout simplement. En fait, quand on parle de coût, le local est beaucoup moins cher. C'est simple. Il y a beaucoup moins d'intermédiaires à payer. Donc forcément, c'est beaucoup moins cher. Pour te donner un ordre d'idée, sur le marché, tu vas trouver tes kilos d'aubergines ou de poivrons à 1 à 2 euros maximum. Tandis que chez des Aldi, Lidl, Carrefour et compagnie, tu es entre 3 à 5 euros le kilo. Déjà, rien que là-dessus.
On sait plus de 3 marques, voilà. C'est bien.
Non, oui, quand même, oui. Voilà. J'allais pas rester sur un, mais oui, c'est vrai, il faut en citer plusieurs. Quand tu prends la viande, nous, on va chez le boucher le dimanche sur le marché. Notre kilo de dinde, on le paye 8 euros, pendant que dans les grandes surfaces, tu es entre 8,50 et jusqu'à 15 euros le kilo, selon la qualité que tu vas prendre.
Et toi, combien tu payes ta viande, Sylvain?
Alors, la viande.
Le blanc de dinde, par exemple.
Alors, moi, je mange pas trop de dinde. En viande, honnêtement, je mange du poulet. Voilà, le poulet, généralement, je le prends en promo.
C'est pareil, c'est le même tarif.
En industriel, le poulet, on doit le payer 7. Enfin, pour moi, même, je sais plus.
Tu m'enverras les prix.
Non, en fait, on le prend souvent en promo. En fait, honnêtement, voilà. J'achète la viande en promo.
Le poulet entier, c'est encore autre chose. Hein. Je parle d'éléments transformés.
Alors, les filets, tout ça, j'en achète rarement. Voilà. Moi, généralement, quand il y a des promos, on achète
Même en promo, tu trouves pas à moins de 7,50€ le kilo. En supermarché.
En fait,
de la merde.
Pardon,
oui, c'est autre chose. Hein, on parle du coup.
En fait, moi, ce qui m'a vraiment amené à se poser cette question aujourd'hui, c'est qu'on en a marre d'entendre les gens qui disent, enfin, tout le monde, hein, que ce soit des mangeurs de viande, en industrie, même certains qui ont essayé le local et qui en sont revenus. Enfin, le local. Et qui en sont revenus.
Le bio.
Ou le bio, ou on en est encore.
Là, c'est autre chose.
Il faut savoir que les gens confondent beaucoup, attention, producteur et primeur. Quand on parle de manger local, c'est de faire du direct producteur. C'est pas aller chez le petit primeur qui est dans ton village, donc
oui,
local,
et
qui fait 10 fois le prix, et qui fait 10 fois le prix.
Lui, il va se servir au même endroit que les supermarchés.
Ou qui marche aussi, parce que c'est un revendeur. Même si c'est des produits locaux qu'il revend, c'est un revendeur. Ce n'est pas un producteur.
Alors, tu parles de producteur, mais quand j'achète chez le boucher, c'est pas forcément lui qui va aller couper, enfin qui va aller chez la viande.
Le boucher, d'accord.
Te renseigner sur la provenance.
Et le boucher, voilà, tu peux te renseigner sur la provenance, mais enfin.
Non, mais le boucher dont je te parle, il fait que du local.
C'est un revendeur.
C'est du particulier. Enfin, le boucher, selon la boucherie, moi je sais qu'autour de chez moi, les boucheries sont hors de prix, quoi.
Après, voilà, il faut chercher. C'est vrai que quand on cherche, même les produits transformés, c'est sûr, voilà, il faut prendre le temps. Mais même les produits transformés, quand on cherche, je prends l'exemple, par exemple, d'une confiture de poire. Une confiture de poire artisanale de direct producteur est à 4 euros le kilo. Une confiture
dans
un discount, on ne citera pas la marque, est à 6 euros le kilo. En discount.
En premier prix.
Donc je pense vraiment qu'il faut faire attention. Voilà, c'est pour ça.
Ça fait une semaine que tu aurais dû préparer ton dossier. Qu'est-ce que tu as foutu, bordel?
Je vois que depuis le début, Panda, Christelle, vous parlez de prix au kilo. Je trouve ça très important, en fait, au niveau des économies. Parce que les personnes vont acheter un steak qui va faire 200 grammes.
C'est ça.
Ils vont payer 5 ou 6 euros. Alors que acheté au kilo, ce steak-là est multiplié par 5,
bien
selon la qualité.
Bien remarqué.
Totalement.
Alors, le prix au kilo, c'est très important pour faire les économies.
Alors,
regardez bien ça.
Je suis 100% d'accord avec toi. Le prix au kilo, c'est ultra important. Après, il y a des gens, malheureusement, c'est à court terme, hein, c'est bête. Enfin, Mais c'est, ce qui est dommage, c'est qu'ils regardent le prix du produit passé à court terme, mais parce qu'aussi, ils ne peuvent pas se permettre.
Ils regardent le
mais
pas
c'est
cher.
Pour ça que les marques font ça. C'est pour ça que le marketing
fait
ça. Oui,
bien bah, sûr.
Sylvain, après, Sylvain cher, qu'on soit clair, quand on va au supermarché, tu me dis ça pour des gens qui ont des caddies à 150, 200 euros. De quoi tu parles?
Non, pas forcément. Pas forcément.
Mais on ne va pas parler du pauvre gars qui arrive en fin de mois, qui ne peut pas se payer juste un truc. Mais même à 5 euros, attends, à 5 euros ta tranche, là, tu as 1 euro de barbac ailleurs. Il faut arrêter de se donner.
Et sur les 5 euros, tu as à peu près entre 25 et 70 centimes d'emballage.
Déjà.
Ah oui, non mais ça, je suis totalement d'accord. Il y a un autre point. Alors, je sais que c'est pas sur le coût, mais il y a aussi une question de possibilité. Ça, c'est un fait. Quand tu habites dans une grande ville et que les producteurs ils sont pas directement dans la ville et qu'ils sont ailleurs, faut faire de la route, faut pouvoir les trouver.
Alors, je ne sais plus.
On parlait de coût.
Je ne sais plus qui il y a pas longtemps m'a posé ce problème justement en disant oui, mais par exemple moi, enfin celui qui c'est pas toi, je sais plus. Enfin celui qui est en banlieue parisienne, qui est comment il fait en banlieue parisienne pour consommer direct producteur. Je suis allée sur Google. 30 secondes. En une recherche premier lien, on tombe sur des producteurs qui font ces petits marchés en banlieue à 1 euro le kilo de légumes. Voilà.
Ça
c'est facile, il suffit de chercher.
Il y a de plus en plus de petits producteurs qui font des livraisons directement locales.
Oui, les paniers, oui.
Ils font voilà. Il y a beaucoup de paniers. Tu vas en ville à Marseille, il y a beaucoup de
Puis ne serait-ce qu'aller sur les marchés. Ne serait-ce qu'aller sur les marchés, tu as déjà des tarifs qui sont beaucoup plus attractifs.
Attention, les marchés ne sont pas forcément les producteurs.
Ça dépend où tu prends le marché. Tu vas au marché de Noailles, par exemple, parfois.
C'est ultra pas cher à Noailles.
C'est pas cher, mais. Enfin, la bouffe, on ne
parle pas de qualité.
On parle pas de qualité, on parle de coût.
Petit exemple simple. À Salon, je vais faire mon marché le dimanche. Cet été, j'ai voulu acheter un kilo de tomates. Le gars, il me les vendait. J'ai reconnu la cagette parce que mes parents, ils les prennent en gros en fait, à la ferme d'à côté. Mm-hmm. Ils me le vendaient 5,60 euros le kilo. Alors que la cagette, elle est à 8 euros et il y a presque 10 kilos. Voilà, c'est une escroquerie pure et dure. Il faut bien regarder tous les stands avant d'acheter. Voilà. Et demander la provenance. Si le gars il hésite, c'est qu'il va à Saint-Étienne-du-Gré et qu'il vous donne des trucs issus de.
C'est super important de se renseigner. Je pense que, juste pour en revenir à ce que tu disais, Sylvain, les gens n'ont pas forcément les moyens, donc ils vont prendre par rapport à leur budget parce qu'ils calculent. Justement, les gens aujourd'hui sont dans une démarche de calculer, d'aller à l'économie. Et je pense qu'ils ont plus peur d'aller de petit magasin en petit magasin, puisqu'on on le fait déjà. On fait les promos pour Noël, on traîne dans les magasins, on fait les promotions, on cherche toujours le moins cher. Justement, si tu vas à l'économie, consomme local, ça te coûtera moins cher, ton panier sera moins cher.
Après, c'est vrai qu'on parle de coût, là c'est vrai qu'on centre le débat sur le coût, mais je pense que c'est pas le truc principal en fait. Parce que tout est lié, t'as le coût, t'as la possibilité, t'as le temps, t'as toutes les variables qui sont liées en fait. On parle de coût, c'est bien.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais le temps enfin honnêtement, je prends un exemple personnel, je prends le mien. J'achète rarement les légumes à cuisiner, genre les carottes à éplucher, à cuire, machin. Pareil pour les courgettes.
Oui, ça c'est le pré-mâché.
Non, mais parce que honnêtement,
prédigéré.
Je prends du surgelé. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment pas le temps. J'ai pas le temps de passer du temps à faire la cuisine. C'est une question de choix. Mais honnêtement, après.
C'est une question de choix, Sylvain. C'est pas une question de temps, en fait. Le temps, réellement.
Ouais, alors je prends le temps, mais je travaille pas à côté. Je peux,
non,
je
le temps, faire, on quoi, le temps, là, je veux dire, c'est.
Nous si on le fait
je pense que c'est juste une excuse.
Celui
parce que quand t'aimes cuisiner comme moi en un quart d'heure je te fais un repas pour 4 personnes en épluchant, en machin, en faisant tout. Tu prépares, tu mets tes trucs à bouillir selon ce que tu fais.
Non, c'est une question de passion, de choix.
Ça prend rien du tout comme temps. Après, pour moi, c'est une question de facilité.
Regarde, tu te fais un plat de pâtes, par exemple. Tu vas mettre entre 5 et 8 minutes à faire chauffer l'eau. Plus ensuite, 8 minutes de plus pour la cuisson.
Ouais, mais entre-temps...
Bordel, 16 minutes. En 16 minutes, on a coupé des oignons.
Sylvain, combien de temps tu passes sur Internet ?
Pas énorme, à part pour le boulot. Honnêtement, en ce moment, c'est. Ouais, aller sur le smartphone de temps en temps, le matin quand je déjeune.
Non, mais enfin, c'est.
Le matin quand je déjeune.
C'est très chronophage.
Honnêtement, non, mais après... le temps que je passe, je pourrais pas le quantifier sur Internet. Parce que Internet me sert au boulot. Et
je parle pour les loisirs, principalement, sur Facebook, tout ça.
Ben Facebook, pour moi, c'est en même temps que je travaille, en fait. Mon boulot me permet ça.
C'est très chronophage, c'est vrai. Après, je pense, il y a ceux qui bossent, qui n'ont vraiment pas le temps, mais eux, généralement, s'ils travaillent beaucoup, qu'ils n'ont pas le temps, c'est qu'ils ont les moyens de consommer mieux, même un peu plus cher. S'ils veulent, c'est tout, ils ont le choix, s'ils veulent. Et ceux qui ont le temps, puisqu'ils courent déjà les promotions, tout ça, ils ont le temps de chercher, et beaucoup de nous ont le temps et se laissent attraper par des occupations chronophages et inutiles.
C'est ça.
Ont le temps, vraiment, s'ils veulent. Quand on est dans cette démarche de vouloir le faire, et c'est là où est le débat, en fait, hein, pas trop sur
nous. Tu veux savoir le plus cher aussi, du moins cher, c'est quand tu vas faire un marché, t'as que des produits de base, quasiment. Bon, tu trouves de la viande, tu trouves des légumes, tu arrives à trouver quelques denrées alimentaires telles que
les épices, tout
simplement, épices, des trucs comme ça. Ça te coûtera forcément moins cher parce que tu as moins de choix déjà. Tu vois, c'est que des trucs qui sont faits pour te
Saison. Il faut être dans la démarche de manger de saison aussi quand on fait ça.
Pour te nourrir. Après, quand tu vas dans une grande surface, tu passes avec ton petit caddie. Ah ça, les cochonneries, les machins, les trucs. Pouf, tu remplis ton caddie et tu ressors avec un caddie à 200 balles, mais c'est rempli de vide, il n'y a rien à bouffer.
Voilà. Sylvain, tu disais aussi qu'il y a des produits qui sont plus chers. C'est vrai, on n'a pas la solution.
Ah non, bien entendu.
Il y a des produits qu'on ne trouve pas. Bon, l'huile d'olive est plus chère et tu as 15 euros le kilo par rapport à un supermarché.
Le litre,
excusez-moi.
Alors pour être exact, attention, entre 12 et 18 euros le litre. Bon, voilà. Pour les huiles de base, après, il y a certaines huiles AOP.
Il y en a parfois des moins chères de
moulin. Supermarché, on est à minimum 5,50 euros le litre. Généralement, si on prend une huile, on va dire, de marque que l'on voit à la télé,
Il y a Sébastien qui...
C'est aux alentours des 8 euros. Ouais.
Donc, on disait un truc sur l'huile.
Je disais encore un truc, il faut bien regarder. Là, tu dis c'est moins cher, mais il faut regarder si c'est pas un 75, si c'est bien un litre.
Oui, on parle
on parle de litre. Non, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont plus chers, bien entendu, tu as la qualité. On prenait l'huile d'olive en exemple, qui est extrêmement plus chère qu'en supermarché. Enfin, ça dépend toujours pareil où tu l'achètes.
Deux fois, ouais, mais je veux dire.
Mais par contre, c'est vrai que le goût n'est pas le même, c'est pas la même chose, ça on est d'accord.
Ça, on n'en discute même pas, tu vois. Là, on est vraiment sur le coût. Au final, si tu achètes deux fois ton prix, l'huile d'olive, mais que à côté, tu as économisé 40 euros sur les fruits et légumes. T'as gagné.
Au final, pour conclure, parce qu'il va être l'heure, il y a des produits comme par exemple la lessive qui est très facile à faire. Vous prenez 100 g de bicarbonate de soude, 100 g de savon de Marseille en paillettes, 3 litres d'eau, dont un d'eau chaude pour diluer les paillettes. Vous mettez des huiles essentielles ou de lavande, par exemple, pour désinfecter ce que vous voulez. Ça coûte 3 euros les 3 litres à faire.
Mais ça, c'est une super idée.
Imaginez un supermarché. Au lieu de 6 euros les bouteilles d'un litre et demi en supermarché. Imaginez l'économie. Donc au final, même si alors, quelqu'un qui est dans cette démarche-là, qui veut le faire, en disant « oui, mais ça va me coûter plus cher », non, ça ne coûte pas plus cher. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des produits qui sont plus chers, comme l'huile d'olive, il y a des produits qui sont trois fois moins chers, comme la lessive, les légumes qui sont
et
moins
chers. Et les poivrons, bordel !
Et les poivrons à 1 euro le kilo, au lieu de les payer 3 euros au supermarché.
Non, parce que j'achète beaucoup de poivrons, c'est pour ça que je connais pas.
Tout à fait.
C'est bon, les poivrons.
Donc au final, même s'il y a des produits plus chers et d'autres moins chers, ce sera toujours un peu moins cher, on l'a testé pour vous, ou voire au même prix que ce que vous payez pour de la merde, excusez-moi.
Après, il faut trouver, toujours pareil, selon où tu habites, il faut trouver le producteur qui les vend.
Et marchés, je vous invite à regarder autour de chez vous parce qu'il y en a beaucoup. Même moi, j'avais une savonnerie en bas de la maison depuis des années et je l'ai découverte que très récemment. Voilà. Ouais. Après, donc je pense qu'il faut être curieux.
Après, honnêtement, j'ai cherché, j'ai trouvé une ferme qui vend des légumes pas très loin de chez moi, mais pas les animaux. Et ça, pour la viande.
Alors, pour ceux qui sont de Salon de Provence et alentour, on a la ferme de l'Authentique. Qui vend et des poulets, et pour les fêtes, des chapons, et des œufs aussi également. Ils font les petits marchés de la région. Vous pouvez aussi les retrouver à Saint-Chamal samedi, par exemple. Voilà, ça fait partie des producteurs. On a aussi Martino qui fait des produits fruits et légumes.
C'est très bien, Martino.
Il fait maraîcher.
Maraîcher, voilà.
Moi, il travaille très bien.
À Marseille, alors je retrouverai le nom pour la prochaine émission. Il y a un pêcheur qui a des prix plutôt abordables. On le paye sur forme de 3 chèques dans l'année et il nous rapporte un kilo de poisson en tout genre qu'il a pêché tous les mois, sauf l'été.
Si on est dans une région sauf super l'été. Intéressante, quoi.
Donc,
je t'engage à voir du côté de Frévalon. Il me semble qu'il y a plusieurs fermes qui se sont créées, des fermes coopératives qui font et du fruits et légumes et de l'élevage. Il m'a semblé en entendre parler.
Ok.
On vous laisse aussi partager avec nous vos impressions toujours sur la page Facebook de GECO. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui construisent la radio avec nous au quotidien. Retrouvez bientôt une deuxième émission qui s'appelle On the Rock Again, qui sera sur les ondes avec Marie-Laure, Mélissa et Sylvain. Et beaucoup d'autres surprises. On se quitte en musique sur Bruno Mars, Uptown Funk.
Bisous, à la prochaine.
Au revoir.
Ciao, ciao.
Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey.